bonjour à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme.
Le cheval.
Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Avec aujourd'hui toujours ce même plaisir, autour de la table, Karine.
Hello.
Et Jean-Claude.
Hello, Army. Comment allez-vous ce matin ou ce soir? Ça dépend à quelle heure vous écoutez le radio.
Dear friend, we go to chevaucher radiophonique for 25 minutes.
Oh yes, of course. Come on.
Bon, et bien on va essayer de remonter loin, l'histoire de celui qui deviendra le cheval commence il y a environ 60 millions d'années, et les restes fossilisés d'un petit mammifère de 30 à 50 cm de haut, pour une longueur d'une soixantaine de centimètres, sont découverts. Alors il était doté de 4 doigts aux pattes antérieures et de 3 doigts aux pattes postérieures. Et son crâne était allongé, sa mâchoire comprenait 44 dents à peu près, c'est-à-dire finalement pas beaucoup plus que le cheval actuel, c'est-à-dire à peu près 2 à 4 dents de plus que le cheval actuel. Donc c'était à peu près au même niveau. Alors c'est, l'examen de ses dents, ça c'est important, a indiqué qu'il se nourrissait de feuilles et de fruits. Et ses articulations flexibles, particulièrement celles de sa colonne vertébrale, lui permettaient de se déplacer dans les arbres. En fait, c'était un petit bestiau qui se baladait dans les arbres. Alors il avait un dos arqué, des pattes courtes, et il ressemblait, on peut l'imaginer, comme une sorte de marmotte qui aurait eu la taille d'un petit renard. Voilà, c'était à peu près le look de...
Très mignon.
Petit... Hein, c'est... Oui. Ah, on l'aime tout de suite, hein, voilà.
Un beau doudou. Un chien, quoi.
Voilà, un chien, un petit chien. Amy. Alors, les paléontologues lui donneront le nom d'Iracotherium. Voilà, l'image est quand même plus sympathique que le nom. Et bon, on imagine effectivement un petit mammifère furtif et discret et qui vivait dans les forêts chaudes et humides de cette époque-là. Donc, on l'a trouvé plutôt dans l'hémisphère nord. Alors, environ 25 à 30 millions d'années plus tard, apparaît alors, un nom barbare, Myohippus, on reconnaît quand même Hippus. Et Myomuscle, donc le l'hippus musclé ou quelque chose comme ça. Il a la taille d'un grand chien, tu vois, t'étais sur chien, mais c'est plus Amy, maintenant c'est...
C'est un bosseron maintenant.
C'est un bosseron, voilà, exactement. Son squelette s'épaissit, ses dents se renforcent, s'élargissent et deviennent plus dures. Alors, comme son prédécesseur, il est herbivore, mais en raison d'une modification du climat de la Terre qui devient plus sec, il quitte la forêt pour gagner les savanes et brouter une herbe épaisse et coriace, d'où les dents qui se sont renforcées. Alors lui, il est muni de 3 doigts, ses membres donc s'allongent et en font un assez bon coureur grâce à 2 adaptations essentielles qui sont importantes parce que les os des tibias se sont soudés cette fois-ci, hein, ils sont pas, il n'y a pas 2 os différents, ce qui limite leur mouvement, donc le mouvement des pattes uniquement de l'avant à l'arrière et inversement, c'est-à-dire il ne peut pas faire des gestes de côté. Et enfin l'animal se tient sur ses seuls orteils cette fois-ci, mais pas bien à plat, mais comme une danseuse qui fait les pointes. Alors, à ceci près qu'une danseuse, je crois, a 5 orteils. Lui, il n'en avait que 3. Alors, on va faire un bond de 19 millions d'années vers le présent. Nous sommes donc à moins 17 millions d'années maintenant, et un nouveau venu fait son apparition, le Mérychippus. Pas qui pue, hein, qui puce. Bon, alors sa conformation physique marque une rupture décisif par rapport à celle de ses prédécesseurs. Il est plus grand, environ 1m20 au garrot, donc c'est déjà un bon poney, ouais. Son cerveau est devenu plus complexe parce qu'on voit effectivement les circonvolutions marquées dans le crâne qui sont plus complexes, donc plus performant, effectivement. Son museau s'est allongé, hein, cheval à pâle, museau plat, hein, bien sûr, et ses yeux se sont écartés, ce qui lui donne une vision périphérique qui est essentielle pour repérer les prédateurs dans un milieu ouvert de prairies ou de steppes. Donc ça, effectivement, c'est aussi une caractéristique. On voit petit à petit se dessiner dans cette gangue un animal qui nous devient de plus en plus familier. Sa mâchoire est plus profonde aussi, avec des dents hautes et plissées. Les dents plissées, ça c'est vraiment une caractéristique des dents du cheval, et donc que l'on retrouve toujours maintenant chez les chevaux modernes. Mais plus important, ses membres se sont adaptés à la vitesse cette fois-ci. Ils s'allongent de façon significative, c'est-à-dire que ça pousse en longueur, quoi, voilà. Et à la place du radius et du cubitus, nous trouvons désormais un seul os solide et trapu dans cette partie de la jambe que l'on appelle de nos jours le canon chez les équidés. C'est-à-dire, en fait, c'est la première mouture du canon. En revanche, Mérychippus n'a pas encore totalement opté pour le sabot. Alors, il est toujours muni de 4 doigts. Lui, il s'en est mis un de plus. D'une part, donc, 1 pouce, 1 index et 1 annulaire dont la longueur a beaucoup régressé par rapport à celle de ses prédécesseurs. Donc, voilà. Son majeur, en revanche, reste plus long que les 3 autres. Donc, lui, il reste très long, le majeur. C'est du milieu. Donc, terminé par un sabot, ce doigt permet à l'animal de démarrer rapidement en cas de danger. Mais pendant la course elle-même, Mérikippus continue, comme ses prédécesseurs, à utiliser la totalité de ses doigts. Ce cheval archaïque sera à l'origine d'environ 19 sous-espèces. Alors là, tout ça se piouf, comment dirais-je, se disperse, comme si quelque chose avait sauté. Alors, parmi ces espèces, il y a l'hyparion, alors là, que tout le monde connaît, les hommes anciens ont dû connaître, les premiers hominidés ont dû connaître l'hyparion, mais qui apparaît quand même il y a 14 millions d'années, le papy, hein, quand même, c'est un vieux papy. Alors lui, il colonise l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Eurasie, il ressemble plutôt à un grand âne qu'à un cheval, comme moi. Et il ne possède plus que 3 doigts, mais son doigt du milieu muni d'un sabot rend progressivement obsolète ses 2 autres doigts qui s'atrophient. Donc voilà, l'évolution va pas garder ses deux doigts. Alors un autre lui succède entre 10 et 3 millions d'années. Et alors celui-là, il est intéressant parce que nos auditeurs et nos auditrices ont tous remarqué que les chevaux peuvent dormir debout. Ça, c'est une aptitude du cheval, pas besoin de se coucher. Et selon les spécialistes, c'est cette nouvelle aptitude que Dinohippus, donc ce nouveau cheval, aurait mis au point. Des tendons puissants fixent les os de ses jambes et lui permettent de dormir debout sans aucune dépense d'énergie. Et bien vu que c'est un bon truc, parce que quand, là encore, il faut décamper au quart de seconde devant un prédateur qui réplique, et ben c'est bien de partir debout, hein. Pas commencer par se lever, bâiller, se gratter le dos, et puis se dire, merde, un lion, on se tire. Bon, alors parmi ces 19 espèces, une seule évoluera vers le cheval moderne qui apparaît il y a environ 1 million d'années. Donc par rapport aux autres, c'est vraiment le petit genou, hein. C'est junior. Hein. C'est notre sympathique Equus Caballus, hein, Karine, un infatigable voyageur. Alors lui, il a beaucoup bougé. Et il se répandra en Afrique, où il sera à l'origine d'autres équidés, comme l'âne et le zèbre, qui descendent de l'Equus Caballus, et le cheval moderne. Et il prendra également pied sur le continent américain, bien avant les Européens, avant de disparaître pour des raisons encore inexpliquées. Alors, est-ce que c'était une maladie massive, etc. Ça, on n'en sait rien. Et pour que le continent américain retrouve des chevaux, il faudra attendre les chevaux espagnols, barbe des Portugais et des Espagnols. Et alors, moi, ce que je trouve formidable, ce cheval américain, les Amérindiens qui le découvriront et qui s'en serviront, le nommeront le grand chien. Ça, je trouve très, très mignon. Donc, tu vois,
on revient toujours au chien. On va continuer maintenant avec une pause musicale avec le groupe Vusi Malazela lors du concert donné le 10 mai 1994 à l'occasion de l'investiture de Nelson Mandela. Et le titre, c'est Basi Manana.
Basi mañana, basi mañana vale la borroco. Basi mañana, basi mañana vale la borroco.
Baribula es ahurisa, renare tu suale que va mahuri que pute.
Ia 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 ia.
Sena siya tsusa, situ tsisi ya makata, hake sheba di taba. Tikwa hetu ki muhudi ka hote.
Tong tong badisa, tong uribe moho, uke la mahomo. Basi manyana, basi manyana, balle la boroko. Basi manyana, basi manyana. Basi mañana vale la borroco. La 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 la, 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 la 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 la. Don remember, Bukela Mahomo. Don't come by
Lisa, don't remember Bugella Mahomu.
Caritabana to Satala, Halakala Mamela, and Tatamu Holo, and Marilisica, at Lisa di Homu to Domien.
Basimanyana, 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 balela boroko. Basimanyana, 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 balela boroko.
Alors on va retrouver un sujet dans la seconde partie de cette émission qui nous enchante tous et qui peut paraître aussi un petit peu mystérieux, c'est l'éthologie. Et l'éthologie appliquée au cheval, bien évidemment. Alors justement, celle-ci appliquée au cheval est née dans les années 50, enfin bon, aux États-Unis grosso modo, voilà. Et qu'est-ce qui fait que les cavaliers américains se sont dit, tiens, on va, qui savaient monter à cheval depuis des lustres, on va essayer de faire quelque chose d'autre, il y a des trucs qui nous plaisent pas, Jean-Claude.
Moi, je dirais deux choses. Je vais pas être très consensuel aujourd'hui. Je dirais deux choses. Une chose vient évidemment de l'esprit et du cœur de l'homme, parce qu'il peut être aussi bon. Et donc, il s'est dit que, effectivement, de débourrer des chevaux, de travailler avec des chevaux de façon dure, violente, n'était pas une bonne chose et n'avait pas un très bon résultat non plus. Donc, il y avait aussi la pas du gain. C'est-à-dire qu'un cheval qui travaille devait être un cheval en toute sécurité, complètement fiable, sûr de lui et qui fasse un bon travail. Donc, pour ça, il fallait qu'il soit bien dressé et non pas mal dressé comme il était tout le temps avant, quoi.
Oui, parce que alors ces cavaliers tapent sur la monte western traditionnelle en disant que vraiment c'est pas possible.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a une partie des cowboys, donc des fermiers qui travaillaient avec les chevaux, qui étaient évidemment très durs, avec qui débourraient les chevaux en les attachant à des poteaux sous le soleil, en les frappant avec des sacs de sable. Donc voilà, jusqu'au moment où le cheval soit
complètement écœuré.
Puis après il monte dessus et il s'élance dans le désert et il y a là et vas-y. Pendant 15 kilomètres, et le cheval, il est débourré. Il y a eu d'autres techniques, quoi. Oui. La deuxième chose est aussi, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est la commercialisation de, justement, de cette éthologie, de l'étude du comportement du cheval, et de faire en sorte aussi de travailler sur ce qu'ils appellent, eux, des cliniques, nous, ce qu'on peut dire, des stages ou des galops. Voilà. Et que, forcément, il y a une entreprise commerciale derrière, et voilà, faut pas l'oublier, quoi.
Et alors, justement, est-ce que tu penses que ça n'est pas cette équitation qui, en particulier en France, en Europe, est devenue particulièrement une équitation de loisirs, uniquement de loisirs, n'a pas, comment dirais-je, permis d'ouvrir grand la porte à ces méthodes
douces,
outre-Atlantique, ouais. Douces, effectivement. Mm. Parce que c'est pas du tout la même chose, me semble-t-il, quand on prend un cheval pour aller, ne serait-ce que disputer un match de polo, hein, il faut que le cheval ou rentrer dans l'arène, enfin il faut que le cheval ça aille vite, mais quand on va plutôt bon pour le loisir, pour le fun, monter à cheval, etc., où on peut d'une certaine façon prendre plus de temps ou faire les choses différentes pour arriver pas au même résultat, mais enfin disons sans drame ou sans gros rapport de force.
Déjà on peut dire un des très très grands chuchoteurs qui est Buck Brannaman, celui qui a fait qui a travaillé sur le film avec Robert Redford, là, comme il s'appelle.
L'homme qui murmurait à l'oreille,
voilà, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. C'est lui qui a dressé le cheval. Il a fait du polo au Lincoln.
Voilà.
Et tout le monde lui disait qu'il était complètement fou. Et il a préparé un cheval en à peine un mois pour faire des vrais matchs de polo, quoi. Et donc, il avait pas de problème pour arrêter son cheval.
Les autres devaient décorer. Ils avaient sané pendant 3 ans.
Donc, ça a pas forcément plus vite, en faisant d'une autre manière. La seule manière, la seule et l'unique, évidemment, c'est la bonne.
Et la bonne manière de faire avec un cheval, c'est d'être avec lui, de penser comme lui, de faire ce que lui peut faire au niveau physique, et puis après faire bien attention à son mental et à son émotionnel.
À son mental et à son émotionnel. Alors justement, je crois que c'est, je me demande si c'est pas Buck Brannaman ou Pat Parelli qui mettent en garde les gens qui veulent aller sur l'éthologie. C'est d'abord, mais absolument, sinon ça marche pas, c'est d'éviter ce qu'ils appellent, ils appellent une projection anthropomorphique, c'est-à-dire je me mets à la place de mon cheval, donc comme je suis bien gentil, machin, le cheval se mettra à ma place. Est-ce que c'est pas le cul-de-sac absolu ?
L'anthropomorphisme ? Mais bien sûr, ça va de soi. C'est comme si, là, c'est un cheval, il peut encore être gentil, il est encore cadré dans un centre équestre. Bon, mais si on le fait avec un ours, avec un tigre, et on dit « il pense comme moi, et il est gentil comme moi », ça va pas le faire. Bon, ben le cheval, c'est exactement pareil. En plus, il ne peut pas comprendre le langage humain. Il n'a pas le concept cérébral pour comprendre le langage humain. Donc forcément, c'est l'humain qui doit apprendre le langage du cheval. Et pour éviter tout ce travail-là, souvent l'humain, il fait de l'anthropomorphisme. Et puis aussi, il y a un petit peu d'ego, il y a un petit peu de complaisance, un peu de fainéantise. Et surtout, ne pas prendre l'autre en considération pour ce qu'il est. Personnellement, je trouve que c'est un manque de liberté, quoi. C'est la liberté. Mandela le disait très bien, hein, c'est à partir du moment où on nuit pas la liberté des autres et au contraire où on la met en valeur. Donc pour mettre en valeur la liberté du cheval, il faut le laisser à sa place, c'est-à-dire à celle du cheval.
À celle du cheval, c'est ça. Ne pas essayer de transformer un cheval en espèce de chimère, quoi.
Exactement.
Et pas se transformer soi-même vis-à-vis du cheval comme une espèce de chimère.
Et bien sûr.
On n'a pas l'accent pour énir. Alors, l'important peut-être aussi en éthologie, c'est d'être extrêmement attentif aux gestes du cheval. Alors, on sait qu'il émet beaucoup de signaux. Ça ne veut pas dire qu'il nous parle, mais en tout cas, il montre des choses. Alors, on peut voir les oreilles, les lèvres, le fouillement de la queue, etc. Alors, est-ce que cette phase d'observation est peut-être fondamentale pour enclencher la suite du déroulement de la méthode, en fait ?
Non seulement elle est fondamentale, mais elle n'est pas, c'est pas le seul et unique fondement d'observation qu'il faut faire sur le cheval. Il y a aussi son mental. Faut voir dans quel état mental il est. Faut voir dans quel état émotionnel il est. Et évidemment, après, il faut voir dans quel état physique. Voilà, que ce soit les oreilles, le fouettement de la queue, qui mâchouille, des choses comme ça, c'est physique. Le cheval qui prend la fuite, c'est physique. Le cheval qui cabre, c'est physique. Le cheval qui attaque, c'est physique, mais aussi mental et aussi émotionnel. À chaque fois, il y a le mental et l'émotionnel. Souvent, on oublie ces deux choses qui sont hyper importantes, c'est le mental et l'émotionnel. Parce que c'est ça qui va amener une réponse au physique.
C'est cela.
Et
oui.
C'est-à-dire que si on va observer un cheval qui physiquement fait une certaine action et on l'analyse cette action-là, on a déjà un train de retard.
D'accord.
Parce que c'est passé émotionnellement, c'est passé mentalement et ensuite c'est passé physiquement.
Tout à fait. Et alors on sait aussi que les chevaux, comme beaucoup d'animaux du reste, ont un instinct de hiérarchie et pour certains d'entre eux de dominance en fait. Les animaux qui vivent, pas les solitaires, mais qui vivent en troupeau, forcément, il faut qu'il y ait un leader ou une leader du reste. Les chevaux, c'est souvent une jument. Donc il y ait cette dominance. Et est-ce que d'une certaine façon, je dirais d'une certaine façon, comment un homme, une femme, un cavalier, une cavalière, qui doit quand même maîtriser et dominer le cheval, n'ayons pas peur des mots, peut aussi conjuguer ça avec une mise en confiance. Parce que s'il y va avec à la brute, comme tu disais tout à l'heure, en l'attachant, en lui donnant des coups de sac de sable sur la tête, bon, ça marchera peut-être, mais je pense pas qu'il aura le super cheval pendant très longtemps, quoi. Alors, comment on peut mettre ça en musique, hein?
C'est-à-dire que, si tu veux, la domination, elle est pas pareille dans le monde du cheval. Encore une fois, si on pense domination avec le langage humain, on est à côté de la plaque. Alors nous, entre humains, on est obligé de se dire des mots pour essayer de se comprendre, pour essayer de véhiculer un enseignement. On est obligé de le parler et de le mettre en mots. Mais on met des mots humains qui ont référence à une intelligence humaine, mais qui n'a rien à voir avec celle du cheval. Le cheval est ailleurs. Il n'est pas là où l'humain croit qu'il est. Parce que l'humain, quand il fait son analyse, il l'a fait avec son intelligence et avec son passé, avec son vécu, avec ses désirs, avec son ego. Il n'est pas avec le cheval. Il est juste avec lui.
Oui, physiquement, mais
mentalement et émotionnellement, il n'est pas là l'humain. Il n'est pas avec le cheval. avec le cheval, il suffit simplement d'être avec lui et de se laisser emporter par lui et de commencer à agir, essayer de communiquer avec lui. La communication, on peut l'avoir petit à petit quand le langage commence à se faire. Deux personnes qui peuvent pas se parler parce qu'ils ont pas le même langage, ils vont utiliser des mots, ils vont utiliser des émotions, ils vont utiliser des sourires, il va se dégager quelque chose d'eux, une vibration, une émotion, il va y avoir un langage commun et qui sera pas celui des mots.
C'est cela.
Et donc, je me rappelle plus ta question, c'était quoi? La domination.
Alors, la domination. Oui, vas-y, Karine.
Si je peux me permettre, on parle beaucoup du cheval, mais comme tu me l'as expliqué, l'homme a aussi un grand travail à faire sur lui. Pour être le dominant, faut qu'il soit posé, faut qu'il soit calme, faut qu'il soit...
La première chose. Parelli dit que la plus grande difficulté dans l'équitation, c'est la maîtrise de l'humain.
Voilà, parce que le cheval nous scanne complètement. Donc même si nous, on a l'impression d'être posé, si on est stressé à l'intérieur, le cheval le sent et c'est difficile d'être son dominant si on peut pas le rassurer.
Complètement, puisque la première qualité du dominant, c'est d'être calme. C'est d'être détendu et c'est de rassurer.
Et c'est difficile, ça paraît simple, mais
il faut voir le mot dominant, comme dit Karine, qui est tout à fait autre que ce qu'on imagine nous. Le dominant, d'ailleurs, dans un troupeau de base, on va dire une vieille jument avec d'autres juments et puis un étalon et quelques poulains, on va dire voilà, ça c'est un troupeau de base, c'est toujours la vieille jument qui est la dominante, c'est pas l'étalon. L'étalon, il est là pour protéger le troupeau, il est là pour veiller au grain. Mais c'est la vieille jument qui dit, voilà, il faut aller manger telles herbes parce que là-bas, c'est bien pour notre corps. Il faut aller marcher sur tel terrain parce que c'est bien pour nos sabots, plus humide, plus sec, enfin voilà.
Ou là, je me souviens, parce que j'ai l'expérience, qu'il y avait un trou d'eau qui est sec.
Exactement.
La moitié de l'année, donc c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est pas dans 15 jours.
Et souvent, quand on regarde dans un troupeau, le cheval, la jument la plus calme, en général, c'est elle la dominante.
D'accord. Et donc, c'est au fond un peu... ce qu'il faut faire, c'est-à-dire arriver avec une mise en confiance du cheval, bien sûr, qui ne veut pas dire de la faiblesse. Hein. C'est pas bisounours, c'est pas donner des biscuits pour faire une mise en confiance. À mon avis, ça va tout de suite dans le mur. Et donc, si j'ai bien écouté ce que tu disais, ce que vous disiez, Karine et toi, c'est aussi, en fait, on communique avec l'animal en langage cheval.
Bon, après, tu as un exemple.
On se met pas à hennir, bon, je veux dire, mais c'est par l'observation du comportement du cheval que l'on calque son propre comportement, qui est quand même un comportement de dominant, forcément. Sinon, il n'y a pas d'équitation.
Souvent, dans les centres équestres, on voit l'inverse. On voit des chevaux qui sont dominants du cavalier. Parce que entre le cavalier et le cheval, ça fait un troupeau de deux. Bon, le cheval, il sait très bien qu'il n'est pas avec un autre cheval. Il voit très bien que c'est un bipède. Il voit que c'est autre chose. Mais lui, ne pouvant réagir que comme un cheval, de toute façon, il réagit comme un cheval dans un troupeau. Donc là, il y a un troupeau de deux. Et si l'humain n'est pas dominant, ça va être le cheval qui va être le dominant. Et donc là, on peut avoir de grosses catastrophes.
On peut avoir de grosses catastrophes, voilà. Alors, il y a cette technique aussi très rapidement qui s'appelle la méthode du join-up, évidemment, qui propose au cheval de venir rejoindre son maître de son plein gré. Alors là, le truc, moi j'ai trouvé ça formidable, un cheval fiche le camp. Le maître ne dit rien, le laisse partir. Le cheval se retourne, veut revenir, mais le maître, là, il n'est pas d'accord. Il lui interdit de revenir. Et c'est par une longue maturation qu'à ce moment-là, le cheval comprend que, bon, je fiche le camp, je prends ma décision, il m'a laissé prendre ma décision, mais ceci dit, il faut que je l'assume jusqu'au bout. Alors, on arrive un petit peu aux fins de cette émission. Alors, on va terminer quand même par un tout petit dicton qui est de Xénophon, qui dit... Alors, le grand... On aime tous Xénophon, je crois. Hein,
c'est complètement.
Un homme extraordinaire. Et il dit, c'est peut-être intéressant, et c'est en lien avec ce qu'on vient de dire, enfin ce que vous venez Karine et toi de dire, c'est si ton cheval a peur, ce n'est pas en le rudoyant mais en le traitant avec douceur que tu lui apprendras à ne rien craindre. Alors est-ce que c'est pas trop beau ou est-ce qu'il y a quand même...
Il y a un petit peu de littérature dedans, mais de toute façon, rassurer un cheval ne peut exister qu'à partir du moment où on est fort. Mais fort, ça ne veut pas dire fort contre lui, ça veut dire fort avec lui. C'est-à-dire que l'humain doit être fort mentalement, émotionnellement et physiquement.
L'humain doit être fort mentalement, émotionnellement et physiquement, absolument. Voilà. Donc, Karine.
Oui, plaît-il.
Plaît-il, tiens, ça me rappelle un film. Voilà. Donc, bien, je crois que ça va être à toi,
voilà.
Justement.
Donc, nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, n'oubliez surtout pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Et un étalon en plus. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site CFM Rodez à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr...
Un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.